il en mettait. Le temps du plastique en musique, que si, qu'on perdrait pas 100 ans, de temps en temps, en y gagnant des sous et des bijoux en plastique, bien plus économique, que mi, bien plus intéressant que les diamants, que l'on pend au cou des gens, car le temps du plastique, c'est bien plus fantastique, qu'on y voit le printemps passer son temps à faire des fleurs en papier. Si l'on mettait le temps des pin-up au pick-up, et hop, on gagnerait bien son temps et son argent, tout en y perdant miettes, à part le chouette. Mais le chouette, tu le repeuples environ ton pick-up. Et hop, sans avoir à causer à ces pépés qui font pi et qui font pitié. Car le temps des pin-up passera et puis hop, puis hop, puis hop, ces pin-up que l'on pique. Et hop, sur les murs, les maisons, des cons. Si l'on mettait le temps des fanfares, gare, 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 on gagnerait bien son temps, de temps en temps, tout en y gagnant de quoi se faire bien de la joie. Car mieux vaut une guitare que les sonneries de la gloire, au moins, que les salons cossus de Dieu connus, où l'on se file les potins et le popotin. Car le temps des fanfares, ça s'envole à rodeur, on y voit des acas académiques, crever comme tous les hommes. Si l'on mettait le temps des pin-up à la gare et les fanfares au plastique, et puis on serait peinard. Il n'est peut-être pas trop tard, trop tard, trop tard, trop tard, trop tard, trop tard.
Radio Libertaire 89.4, vous écoutez l'émission Un peu d'air frais, l'atelier du documentaire. Et aujourd'hui, on vous parle des déchets, les déchets, une mine d'or. Avec la prise de conscience écologique, le recyclage a le vent en poupe depuis quelques années. Des artistes se sont emparés des déchets pour élaborer des créations engagées. Mais que deviennent vraiment les détritus de notre société de consommation ? Le tri des poubelles permet-il de réutiliser papier, plastique et autres objets abandonnés à l'infini ? La valorisation de nos restes est-elle totale ? La récupération, la transformation des déchets en objets de seconde main est-elle un mythe, une mine d'or ? Pour réfléchir à ces questions, nous avons rencontré l'artiste plasticien Clay Appenouvon, qui travaille à partir de matériaux d'emballage. L'artiste pluridisciplinaire Ayoub Yasmina Moumem réalise des performances, comme des défilés de mode, avec des déchets. On l'entendra en deuxième partie. Et enfin, on entendra aussi en reportage la styliste Alexandra Latour, qui fabrique des vestes uniques à partir de jeans recyclés. Nous aborderons aussi les déchets de l'industrie, avec le réalisateur Cédric Picot, en direct par téléphone à la fin de l'émission, qui a mené une enquête sur la commune de Moronvilliers, dans la Marne, avec un village qui a eu un centre d'expérimentation nucléaire pendant plusieurs années. Et pour discuter en direct avec nous, notre invité Emmanuelle Durand, anthropologue, rattachée à l'EHESS et enseignante à l'École nationale d'architecture de Versailles. Bonjour Emmanuelle.
Bonjour.
Donc tu as écrit un ouvrage qui s'appelle « L'envers des fripes » qui vient de paraître aux éditions Premier Parallèle. Donc on parlera de cet ouvrage et peut-être en quelques mots déjà tu peux nous dire en tout cas toi pourquoi tu t'es intéressée aux déchets.
Alors je m'y suis intéressée, en fait l'enquête on en reparlera mais elle part du Liban et il y avait vraiment ce constat en fait d'une multiplication des marchés, des boutiques, des échoppes de vêtements de seconde main en 2017-2018 et c'est ça... c'est ce constat d'une multiplication qui m'a donné envie un peu d'aller gratter du côté de l'anthropologie, tout ça.
Eh ben, on va d'abord écouter donc Clay Appenouvon, qui lui aussi va nous parler de déchets. Donc, c'est un artiste plasticien qui vient de recevoir un prix à la Biennale de Dakar le 8 novembre. Voilà, je suis allée le voir chez lui dans son atelier. Bonjour Clay.
Bonjour Amanda.
Est-ce qu'il y a quelque chose là? On est dans ton atelier à Aubervilliers, donc on est au milieu d'un certain nombre de tes œuvres. Peut-être qu'il y en a une que tu aimerais nous présenter?
Ouais, je peux vous présenter l'œuvre derrière. On voit un sac plastique. On voit l'image d'un sac plastique. C'est marqué boucherie, boucherie halal ou un truc comme ça dessus. Ouais. Avec les dessins des coqs, des moutons sur le sac, dessinés sur le sac. Mais en fait, c'est pas l'image du sac. C'est l'image du sac, mais c'est le sac lui-même qui est là. C'est une œuvre thermoformée avec un vrai sac plastique. D'abord, plusieurs sacs plastiques noirs et avec un sac plastique blanc marqué boucherie, chauffé à 196 degrés par une plaque. Et le sac plastique se sacrifie à la recherche de la célébrité. Parce que c'est ça, parce que c'est un sac qui a beaucoup de chance. Parce que beaucoup de sacs n'ont pas cette chance d'être sélectionnés par Clay Appenouvon pour devenir une œuvre d'art. Donc ce sac est incroyable. Même dans le monde des sacs, il y a de l'injustice. Le sac ne peut pas devenir célèbre. Donc voilà, donc il faut arrêter de se casser la tête sur la célébrité.
Et alors du coup, puisque là tu commences à avoir une certaine célébrité avec ce prix que tu as eu au Sénégal, peut-être que tu peux nous dire quand même quelques mots de cette œuvre qui est plutôt assez intéressante tout de même.
Et j'ai montré à la Biennale de Dakar une œuvre qui s'appelle « Grande fenêtre sur le large » qui est faite à base de films noirs et la couverture de survie, des châssis en bois. C'est une installation murale composée de 16 pièces. L'idée c'est de voir une fenêtre, déjà être devant une grande fenêtre et voir à travers la fenêtre, voir le large de la mer la nuit. L'idée c'est ça. C'est 16 cadres composés au mur qui forment la fenêtre. Et comme je vous dis, les matériaux sont faits du film noir, la couverture survie. Donc on est devant un film noir. Quand on est devant cette grande fenêtre, on est devant un film noir. Et le film noir, pour moi, c'est de penser à combien de vies noires qui ont disparu dans les océans depuis l'esclavage transatlantique jusqu'à aujourd'hui. La jeunesse africaine, beaucoup sont morts en voulant traverser cette mer-là. En même temps, c'est souligné par la couverture de survie dorée. C'est une façon aussi de mettre une protection dans l'esprit, dans la mer, semée dans la mer, pour sauver ceux qui vont disparaître en esprit. Comment être devant une œuvre, dans le fond, qui annonce une force qui est film noir. Film noir, en tant que noir, c'est ce que j'en sais, c'est ça. Quand je pense au film noir, je pense à le drame pour le noir dans le monde. En même temps, le film noir est brillant. Quelle beauté, quelle force, quelle énergie. Le film noir, c'est du pétrole, c'est de l'énergie fossile. C'est le sang de la terre. Donc, j'aime bien sublimer ce noir. J'aime bien aller vers un truc comme ça. On est la racine. Voilà, le monde est tenu par le noir. Voilà, la matière noire compose une grande partie de l'univers. Et le noir, c'est la racine, c'est le début. C'est le commencement et c'est la fin. Et je suis nommé noir dans le monde occidental. Donc, j'ai essayé de récupérer la totalité de mon noir pour pouvoir la maîtriser et le servir. Les matériaux noirs, le film noir que j'utilise et ma noirceur, la rencontre entre les deux, ça fait le noir total. C'est ce que j'utilise maintenant d'ailleurs. Et noir, utiliser le noir, c'est l'utiliser avec sa conscience. Donc ça devient total.
Donc là, on a monté un étage et on est devant d'autres œuvres, dont ces sacs plastiques rouges qui ressemblent à des danseuses. Je te laisse nous décrire ça.
Le titre, c'est « Danse plastique ». Danse plastique, comme la danse classique. Ici, je me suis amusé à faire danser des sacs. Une fois que je trouve la position, la figure de danse, je la mets sous une presse à chaud et je la fixe comme cela. Et j'en ai fait plusieurs avec des figures différentes. Ce qui fait que quand on regarde, on a l'impression que les sacs sont en train de danser. Les sacs, c'est des danseuses. Et ce qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressant là-dessus, comme je disais tout à l'heure sur les sacs, c'est des vrais sacs. C'est pas dessiné. C'est des vrais sacs qui dansent. En même temps, danse figée. La série, comme ça, alignée, on a l'impression que c'est la même danseuse, plus en photo, avec des figures différentes. Là, non, c'est chaque sac, c'est sacrifié ici. C'est un sacrifice. Sans se sacrifier pour rester éternel. Là, on est devant une vérité à la façade et dans le fond. C'est ça, l'art, quoi. Pour moi, ça, c'est un truc. Quand je suis devant un travail comme ça, je suis content parce que dans tout ce que j'ai fait, j'ai aussi fait des travaux comme cela qui sont ma propre vérité, comment ma vérité dans le monde. C'est ça. Je pense que si tout est aussi vrai comme cette œuvre, la terre récupérera sa place qui sera le paradis.
Et on a le tutu blanc aussi.
On peut avoir des images comme ça, avec des sauts, la récupération, des trucs, les bras levés, les deux pieds. C'est tout ça que j'ai essayé de faire ici. C'est la danse plastique, quoi.
Alors effectivement, on se voit après de nombreuses années. On s'est rencontrés il y a une vingtaine d'années à Mantes-la-Jolie. C'était un peu le début de... Enfin, moi, c'était les premières œuvres que j'ai pu voir de toi. Je me rappelle... en particulier des boulons à l'époque où tu travaillais à Renault Flin. Comment l'idée de déchets est arrivée dans ton travail ?
Oui, quand on s'est rencontrés à l'époque, j'étais d'abord dans la peinture. Et puis petit à petit, j'ai rajouté des matériaux, parce que les déchets sont partout. Hein. Tout le monde le voit. Hein. En plus, moi j'habitais à Mantes-la-Jolie, au Val-Forêt, dans les grands ensembles, des grands immeubles, où il y a des grosses poubelles devant l'immeuble, en permanence, remplies. Donc le déchet était présent. J'avais commencé à travailler d'abord sur les emballages. C'est les emballages qui m'ont amené dans des déchets parce que on voit partout des emballages. Dans la rue, il y a beaucoup d'emballages. Ça veut dire que les gens consomment. Qu'est-ce que je peux faire avec ?
C'était pour des raisons pratiques au départ. C'était, il y a une matière là qui peut être utilisée. Ou on n'a pas parlé du début de... Ton travail, ça commence au Togo, en fait.
J'ai été formé à Lomé. Je suis autodidacte, mais formé dans un petit atelier pour apprendre de l'art appliqué, de la sérigraphie, des infographies, des panneaux publicitaires, des trucs comme ça. C'est-à-dire embellir les façades, quoi. Oui, j'ai été formé dans ce sens. Mais la peinture, j'ai été toujours attiré par la peinture, hein. C'est la peinture qui m'a amené à signer un contrat dans cet atelier qui s'appelle Art Modestie. J'ai découvert l'art en chemin. Plus je grandissais, plus je prenais conscience, plus cette conscience imprégnait mes démarches artistiques, voilà, jusqu'à arriver au carton. C'est l'emballage, en même temps, on parlait de pauvreté, en même temps, il y a beaucoup d'emballage. Et je me dis, comment on peut avoir les moyens de consommer comme ça, et puis en même temps, on est pauvre. Les produits qui se trouvaient dans les emballages n'étaient pas des vrais produits, sinon, une fois qu'on a consommé autant de produits, autant de tout, on devait être bien. Mais malgré ça, on était mal. C'est là que j'ai commencé à questionner les emballages.
Là, il s'est passé un long chemin entre cette période, effectivement, des emballages, et puis là, récemment, où tu as eu un prix au Sénégal. Donc, est-ce que c'est toujours le fil conducteur, finalement, les déchets ?
Les déchets plastiques ou carton, c'est des déchets visibles. Dans un monde où il y a autant de déchets visibles, on peut imaginer quels sont les déchets invisibles. Mes questionnements ont dépassé les produits, ont été vers les idéologies, ont été vers la politique, plein de choses. Ouais, donc ça a traversé, c'est toujours la même question en tout cas. Est-ce que vous voyez ce qui est, vraiment ? Est-ce que ce qu'on voit est la vérité ? Qu'est-ce qui se cache derrière l'image ? Aujourd'hui, j'utilise beaucoup de plastique noir, comme l'œuvre qui a été primée à Dakar. C'est un emballage, c'est un plastique noir qui s'appelle film noir, que j'ai découvert devant les magasins de grossistes. C'est pour emballer des grosses palettes, pour cacher beaucoup de marchandises. Il est noir, il est brillant. Il ressemble beaucoup au pétrole brut. Ce plastique vient du pétrole. J'ai trouvé intéressant de questionner le lien entre l'énergie exploitée, volée partout dans le monde, et le film noir, finalement, qui emballe c'est tous ces produits qui viennent de la mondialisation, qui se retrouvent sous le même emballage, caché par un noir opaque, avant que les produits ne rentrent dans les supermarchés, mis à la tête de gondole ou dans les rayons, et être éclairé, ce plastique noir disparaît, toujours. Et la vie du plastique noir m'a intéressé. J'aime tout de suite faire le lien d'ailleurs par rapport à l'histoire de l'Afrique, l'époque des guerres, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, comment les Africains, les tirailleurs africains, les Sénégalais, sont venus combattre le nazi ici dans la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont gagné la guerre, mais le jour de fêter la victoire, sur les Champs-Élysées, ils ont été cachés. Donc pour moi, c'est une anecdote qui va avec, tu vois, c'est l'allégorie. Donc ce noir qui est toujours jeté avant la lumière, peut-être j'ai fait le choix carrément de l'amener moi-même à la lumière, c'est ça, à l'accompagner en même temps, moi le noir brillant. Et voilà, c'est pas...
Et alors il y a aussi les couvertures de survie qui commencent, enfin que tu as beaucoup utilisé aussi, que tu utilises encore aujourd'hui.
Moi j'ai commencé à l'utiliser... à partir de 2014 ou 2015, parce que j'avais vu beaucoup de réfugiés africains noirs à Paris, plein hiver, couverts de cette matière, de cet objet qui est doré. L'image était frappante. La première fois, je voyais ça. Ça me faisait réfléchir parce qu'il y a beaucoup d'or en Afrique. On a beaucoup d'or en Afrique, dans les pays, même au Togo, il y en a, au Ghana, il y en a partout, Burkina, Mali. Il y a de l'or partout en Afrique. Quand je vois... la jeunesse africaine se sacrifier, traverser le désert, beaucoup qui disparaissent, traverser la Méditerranée pour venir en France, pour se sauver parce que ça va mal, et arriver à Paris, par exemple, ils se retrouvent, parce que c'est les rescapés qui arrivent ici, hein, et les rescapés sont couverts de ce plastique en or, doré, ce plastique doré. Pour moi, c'est l'ironie, c'est les illusions. De l'or, quelqu'un qui est en détresse, qui est dans une tragédie couverte de cette couleur d'or, ça m'a fait penser à moi-même, parce que moi-même, avant de me retrouver en Europe un jour, j'avais toujours cette image que ça va mieux en Europe, ça ira mieux en Europe, l'Europe, parce que c'est aussi l'aliénation coloniale. C'est des illusions, quoi. C'est des illusions. L'or, des illusions. En même temps, quelque chose qui protège. Qui protège ces gens-là. Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il faut, le vrai ou le vrai or, ou c'est le faux?
C'est quoi Plastic Attack? Tu peux nous en dire quelques mots?
C'est une série d'installations que j'avais démarré en 2010. C'est amusant, c'est à base des sacs plastiques en fait. J'avais ramassé beaucoup de sacs plastiques en couleur, partout dans la rue, dans le marché, partout. Je les ai réunis, j'ai trouvé ça intéressant pour dénoncer l'envahissement plastique. Le plastique n'est pas produit partout, mais le plastique est partout. Donc c'est comme une bombe. Pour moi, le plastique est comme une bombe explosée, fabriquée à certains endroits, mais explosée sur le reste du monde. J'ai créé cette série. C'est des installations murales. J'arrive dans un espace et j'installe mon plastique attaque comme s'il y a eu une explosion dans l'espace. Il y a ce côté sympathique avec la couleur. En même temps, ça te fait penser à une bombe. Et j'avais envie de montrer quelque chose qui se passe, qui est en cours. Et c'est une explosion en cours, d'ailleurs, quand on voit sa forme. C'est une installation que j'ai développée, que j'en ai fait un peu partout, que ce soit en France ou aux États-Unis. J'ai vu, il y a deux ou trois ans, il y avait eu un mouvement citoyen comme ça, qui ont décidé de faire des plastiques attaques dans les magasins, qui se réunissent... à Bruxelles, au Canada, pour faire des plastiques attaques. J'ai trouvé ça vraiment intéressant aussi, parce que c'est une démarche qui est venue après mes installations. Ça montre aussi que je suis connecté à mon époque. Les déchets qui font plus de dégâts, c'est les déchets invisibles. C'est les déchets invisibles. C'est les déchets idéologiques. Quand on regarde l'état du monde aujourd'hui, les peuples ont toujours essayé de... d'être ensemble, de faire des choses ensemble. On a vu qu'en même temps, ceux qui ont essayé de faire des choses ensemble, ils sont aussi divisés plus que tout. Mais qu'est-ce qui divise les gens? Voilà. Ça, parce que c'est les déchets qu'ils ont dans l'esprit. Parce que c'est ce qu'ils savent de l'autre, c'est ce qu'on leur a fait croire de l'autre. C'est tout ça qui fait que... Et ça, c'est les déchets qu'on ne voit pas. Voilà. C'est des choses qu'on ne voit pas, mais moi, je crois que le plus dangereux, c'est ça. Parce qu'un homme qui coupe l'arbre sur lequel il est assis, comment on arrive à polluer le monde dans lequel nous-mêmes nous vivons? Parce qu'il faut être malade pour faire ça. Mais qu'est-ce qui a rendu malade ces gens-là? C'est le déchet de l'esprit, déchet de civilisation, déchet de... Voilà. Donc, pour moi, c'est important. J'ai commencé par aborder le matériel, l'objet. Mais en m'a donné l'objet ne me suffit pas. L'objet m'a amené vers ses sources. Donc, c'est là où, c'est pourquoi... Tu vois, j'avais commencé par les cartons, le plastique, mais mon idée de déchets dépasse tout cela. Je suis devant un monde dévasté.
D'un air si clair. Et où est-ce qu'on peut voir ton travail alors?
Ah là, il faut aller à Dakar, là, tout de suite. Hein. Ouais, il faut aller à Dakar. Non, là, oui, en ce moment, j'expose à Dakar. Et puis, il y a d'autres expos à venir.
T'as un site aussi, hein?
Oui, bien sûr. J'ai un site internet, je suis sur les réseaux. Donc, parce que ça fait un moment que je fais ce que je fais là. Hein. Je commence à vieillir même, donc... Ouais. Okay.
Merci.
De rien.
Vous êtes toujours dans l'émission Un peu d'air frais, l'atelier du documentaire, avec Marilyn qui va m'accompagner pour animer l'émission, et puis Christelle à la technique. Et en invité, en direct, on a Emmanuel Durand, anthropologue, autrice de l'ouvrage « L'envers des fripes ». Donc, c'est paru aux éditions Premier Parallèle, dans une petite collection qui s'appelle Carnet Parallèle, la vie des choses. Et j'ai l'impression que c'est à chaque fois des petits livres. Enfin, il y a celui-là, et puis il y a aussi celui de Michaela Lemeur, Le mythe du recyclage. C'est en tout cas des petits ouvrages, une petite collection. Je ne sais pas si c'est que des anthropologues, mais en tout cas, c'est assez intéressant.
Alors, ce n'est pas nécessairement des anthropologues, il y a différentes disciplines. En tout cas, l'idée de cette collection, c'est d'être dans une forme de récit, de raconter en fait une enquête ethnographique ou un travail de recherche, de réflexion, quelle que soit la discipline, et d'être dans une forme de compagnonnage en fait avec le lecteur, de lui raconter une histoire, de partager quelque chose sans être dans quelque chose où on donne des leçons, etc., mais vraiment dans une forme de complicité, enfin d'essayer d'être dans cette forme d'écriture là en tout cas.
Donc c'est c'est ce que tu disais, c'est que c'est l'enquête doctorale en fait que tu as et ensuite mis en récit pour cette occasion. Tu peux nous parler un petit peu de ton arrivée dans cette enquête autour des déchets du textile?
Oui, alors je suis partie, effectivement, ce livre, il est le fruit d'un travail doctoral donc, que j'ai mené entre 2018 et 2022 sur 5 ans, et puis un peu aussi de recherche postdoctorale, donc ce que j'ai fait après, plutôt là sur un terrain parisien aussi que j'ai assemblé dans ce livre-là. Et en fait, je suis arrivée, comme je le disais tout à l'heure, je suis arrivée sur la question du déchet, du textile, finalement un peu par hasard. J'avais fait des enquêtes avant dans le cadre de mes études au Liban. J'ai vécu au Liban de 2012 à 2022 à peu près. Et puis, je m'intéressais aux places marchandes, aux pratiques du commerce de rue, etc. Et c'est là, en fait, que j'ai vu, du coup, par cette observation-là, des pratiques marchandes se multiplier les échoppes de vêtements d'occasion. Et ça m'a un peu interpellée parce que, en fait, c'est parti d'un paradoxe où il y avait de plus en plus de boutiques de la sorte et en même temps des représentations sociales, des imaginaires extrêmement négatifs au Liban. Et donc, je ne comprenais pas en fait ce paradoxe, pourquoi ça se multiplie alors que c'est si mal vu. Enfin voilà, ça m'a intriguée et j'ai choisi en fait de... parallèlement, en fait, je lisais beaucoup d'ouvrages de recherche, notamment, je pense à un d'Armel Choplin, qui est une géographe qui a travaillé sur la vie du ciment en Afrique, où elle raconte justement la vie sociale. Donc, selon l'anthropologue Apadouraï, qui, à la fin des années 80, a écrit ce livre en disant on peut faire la biographie, en fait, d'objets, de matériaux, de substances, et qu'est-ce que ça nous raconte de nous, de notre rapport au monde, etc. Et c'est nourri de ces lectures et de ce paradoxe que je constatais au Liban, que j'ai eu envie de jouer le même jeu un peu et de suivre à la trace les textiles que je voyais au Liban pour un peu mieux comprendre d'où ça venait, qui travaillait à ça, cette filière, j'avais cette intuition qu'il y avait un système de production derrière qui faisait en sorte que le vêtement arrive là et était revendu. Donc j'ai adopté cette méthode de suivre l'objet et donc ça m'a amené un peu dans un voyage ethnographique que je raconte dans ce livre-là.
Et alors, dans ton ouvrage, tu commences aussi par une partie historique. Tu nous parles de la robe de ta grand-mère qui lui a été transmise par les grands-parents. Enfin, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, tu nous racontes un peu l'histoire en fait, aussi du déchet à travers cette robe.
Oui, parce que dès lors qu'on s'intéresse à ce que j'aime bien appeler un peu la part résiduelle du monde matériel, c'est-à-dire les restes, en fait. Qu'est-ce qui reste des choses ? Alors là, en l'occurrence, moi, je me suis intéressée au textile. J'aime bien parler des restes parce que la notion de déchet, elle est un peu contraignante, enfin, elle est juridiquement définie. Et donc, voilà, ça, c'est un peu contraignant. Parfois, on ne peut pas mettre toutes les réalités qu'on observe dans la catégorie du déchet. Donc, voilà, je parle un peu des restes. Et en fait, pour qu'un reste soit remis en ressources, qui redevienne une marchandise, un objet d'art, enfin, quelque chose d'autre, en fait, qui poursuive un peu sa vie, pour reprendre cette idée-là d'Apadurai, en fait, il y a tout un tas de gestes. Alors, de gestes manuels, hein, souvent. Après, il y a eu pas mal de choses qui sont aussi mécanisées, etc. Mais le premier geste, un peu, ça va être celui, évidemment, de la collecte, du tri, mais celui de la réparation. Et en fait, c'est quelque chose, un geste dont on parle aujourd'hui, j'ai l'impression, de plus en plus, qui tend à être un peu plus visible, un peu plus valorisé, là où c'est un geste extrêmement banal, qui a longtemps été fait, qui était souvent réservé, voilà, à une classe féminine, invisibilisée, etc. Et puis, voilà, j'étais dans ces réflexions, et puis, voilà, un jour chez ma grand-mère, elle m'amène ce lot, ce gros sac avec plein de robes rafistolées, reprisées, qui en fait lui avait été transmise, et ça raconte en fait comment à cette époque-là, donc on est fin 19e, début 20e. Comment, en tout cas dans ce territoire rural de l'ouest de la France, comment une robe en fait dure toute une vie, c'est-à-dire que voilà, elle va être abîmée, on l'a reprise et puis on va continuer à la porter, etc. Et ça m'a ouvert un champ sur l'idée que l'image en fait, les lunettes un peu à travers lesquelles on regarde aujourd'hui le marché du textile, mais plus généralement le marché des choses, des objets, etc. On distingue entre ce qui est neuf et ce qui est usagé. Et en fait, on se rend compte que c'est une construction sociale, cette distinction, qui s'opère au XIXe siècle avec la révolution industrielle. Parce qu'avant ça, en fait, le vêtement, il est confectionné avec des fibres naturelles, généralement de façon artisanale. Donc c'est la confection du textile prend du temps. Le vêtement, il coûte cher à l'achat. Et donc, on en prend soin, on le fait durer toute une vie parce qu'aussi, il n'y a pas ce rythme un peu effréné des tendances, etc. Donc, il y a toutes ces bourses aux vieux vêtements un peu dans toutes les villes de France et notamment à Paris, hein, avec le carreau du Temple qui était l'espace central. Et c'est quelque chose de tout à fait banal, en fait, d'acheter, etc. Il n'y a pas cette idée que c'est de la seconde main, c'est on achète des vêtements. Et puis la révolution industrielle arrive et vient un peu chambouler tout ça, puisque du coup ça arrive avec évidemment les outils de production qui se mécanisent, mais aussi les fibres synthétiques, donc qui arrivent de toute l'industrie pétrolière avec le polyester, l'élastane, enfin tout ce qu'on connaît maintenant qui un peu fabrique nos vêtements, mais aussi les colorants artificiels, enfin tout ça vient réduire les coûts de production. Et donc, le vêtement coûte moins cher à acheter, on achète plus, c'est l'émergence des grands magasins. Et donc, voilà, le rythme de la production et de la consommation commence à s'accélérer. On n'en est pas encore là où on est aujourd'hui. Mais voilà, ça vient un peu raconter tout ça. Et dans le même temps, toutes ces bourses aux vieux vêtements, ces marchés de seconde main qui donc existaient depuis toujours, hein, on peut dire, ben en fait sont un peu marginalisés à la fois spatialement, c'est-à-dire que dans le contexte parisien, c'est à ce moment-là en fait que le marché de la Porte de Montreuil, les puces de Saint-Ouen, tout ça, c'est à ce moment-là que ça arrive, c'est-à-dire qu'on fait sortir les vieux vêtements, les vieux objets du centre de Paris, on les met aux marges, en périphérie, dans des territoires aussi qui, à ce moment-là, sont stigmatisés socialement, etc.
Et on est à quelle époque, à peu près ?
Là, on est début 20e, à ce moment-là. Et puis socialement aussi, ça raconte quelque chose, du coup, de vêtements, d'objets qui seraient réservés à des classes plus précaires, plus pauvres, etc., qui, a priori, n'auraient pas les moyens d'acheter du neuf. Donc, ça vient vraiment basculer dans l'espace, mais aussi voilà, dans les représentations sociales, ça raconte quelque chose aussi.
Oui, dans la représentation et aussi dans la pratique. Parce que ce qu'on peut ajouter, c'est que ça coïncide aussi avec une évolution de la technologie et l'arrivée des moyens de laver le linge à la machine avec des textiles qui n'étaient pas du tout faciles à utiliser avec le lavage en machine. Enfin, c'était des tissus qu'on lavait à la main et les femmes ont tout de suite adopté les textiles plus modernes puisque on pouvait ne plus être contraint par le lavage à la main.
Oui, tout à fait. C'est intéressant de voir ça dans un horizon plus large où effectivement c'est aussi l'arrivée de tout l'électroménager. Qu'est-ce que ça vient chambouler sur nos manières très très quotidiennes en fait de vivre, d'être au monde, de s'habiller, de se meubler, etc. Et donc effectivement ça vient en fait marginaliser pour rester sur le textile, le vêtement usagé de seconde main, d'occasion. Voilà, on peut l'appeler de différentes manières, et on se rend compte qu'au fil du temps, il va y avoir des groupes, et je pense notamment au mouvement punk, en fait, dans les années 1970, qui, en fait, s'emparent de ces vêtements qui sont rafistolés, s'emparent du geste aussi de la réparation, du faire soi-même, qui mobilise en fait comme un geste militant, et qu'ils affichent en fait clairement aussi, voilà, quelque chose qui est reprisé, rafistolé, troué, etc., pour en faire un signe distinctif en fait. Et donc, voilà, il y a une forme de réappropriation culturelle, hein, on pourrait dire, qui finalement est assez vite reprise 10, 20, 30 ans après par l'industrie textile elle-même, qui va en fait nous vendre des vêtements neufs qui sont délavés avec des opérations de sablage.
Mais c'est les années 80, ça ?
Ah, je pense qu'on peut-être, je dirais plus années 90, 20, début 2000, toute l'arrivée, voilà, des jeans délavés, des jeans troués qui sont vendus dans les grandes chaînes de textiles. Donc on voit que l'industrie se réapproprie ce geste-là du rafistolage, et donc ça vient un peu revaloriser la chose usée, alors toute mesure gardée, hein. Et puis aujourd'hui on a atteint une nouvelle étape, j'allais dire un nouveau cycle, je suis pas sûre qu'on soit dans un cycle, mais en tout cas une nouvelle étape où le geste de réparation, donc qu'on peut parfois tendre à rendre visible, hein, c'est-à-dire que voilà, on va réparer le pull, la chaussette, le jean, etc. Ça, c'est réapproprié en fait par le gouvernement, en tout cas dans le contexte français, comme un outil juridique. Et là, je pense au bonus réparation qui a été mis en place il y a un an à peu près, qui en fait incite les personnes à faire réparer leurs vêtements ou leurs chaussures, les faire ressemeler, etc. Et ça, c'est présenté comme un outil au service de la transition écologique au sein de la filière textile. Et donc, à travers ce petit geste de la réparation, de la couture manuelle, etc., on voit en fait, quand on l'observe sur un siècle, deux siècles, on voit toute l'évolution des manières de faire, mais aussi toutes les représentations sociales qui ont été bouleversées par rapport à ça. Et c'est, voilà, c'est assez parlant, je trouve, de regarder toute l'épaisseur sociale en fait de ce geste-là, pour nous raconter en fait plus globalement ce marché du textile beaucoup plus global en fait.
Et aujourd'hui, on parle moins, enfin, on parle de recyclage, mais on parle aussi, il y a un nouveau, enfin, un terme qui est repris de l'anglais, c'est upcycler.
Oui, effectivement. Alors dans la hiérarchie un peu des manières, des modes de remettre en ressources les choses, les substances, les produits, tout ça. Donc on parle, il va y avoir un lexique assez varié. On va parler de réemploi, de réutilisation, de recyclage. Donc ça, c'est trois termes qui sont juridiquement aussi définis par le Code de l'environnement dans le contexte français. Voilà, les définitions juridiques, elles sont très utiles parce que elles permettent d'encadrer des choses, mais elles peuvent être, comme je le disais, voilà, contraignantes et insatisfaisantes parce que voilà, il y a des pratiques qui débordent en fait des définitions juridiques et on n'arrive pas trop à les qualifier. Et c'est le cas de l'upcycling en fait, où les gens qui ont lancé ce mouvement-là, en fait, c'est l'idée que dans le recyclage, il y a l'idée de la perte, en fait. On perd quelque chose de la substance, de l'usage d'un objet en le recyclant. Alors que l'upcycling, en français, on peut le traduire comme du surcyclage. C'est-à-dire qu'on va revaloriser, on va rajouter un usage, une esthétique. C'est très lié à l'esthétique, hein, cette idée de l'upcycling. Et donc, les individus qui se revendiquent de pratiques upcyclées vont être plutôt de l'ordre des artistes ou d'acteurs dans la mode, etc. Enfin voilà, il y a vraiment cette forme de distinction vis-à-vis du recyclage qui est assez intéressante à regarder aussi entre les deux termes.
Alors, on va peut-être écouter le reportage justement de Ayoub, enfin que qu'a fait Christelle, d'Ayoub Yasmina Moumem, justement qui utilise ce terme upcycling.
Mes chers compatriotes, c'est Christelle, votre envoyée spéciale en France pour une nouvelle mission secrète. Aujourd'hui, je me trouve face à Ayoub Yasmina. Elle va nous parler de son travail d'artiste, activiste et artiviste. Alors, comment se trouvait là sur cette terrasse de café parisien?
On s'est retrouvé. Bah, en fait, on s'est donné rendez-vous à la maison des métallos parce que c'est un lieu et un espace que j'aime beaucoup et avec lequel j'ai tissé un lien et un rapport incroyable depuis quelques années. Et du coup, malheureusement, il accueille pas le public mercredi avant 14h. Donc, du coup, on s'est retrouvé dans cette petite terrasse. Et voilà.
Donc, tu es en France depuis 10 ans plus ou moins. Et c'est ici que tu as choisi de t'installer et de faire tes créations artistiques et tes performances qui utilisent des déchets. Moi, je dirais de produits dont personne n'a besoin, des choses qu'on jette normalement à la poubelle, qu'on peut trouver dans les poubelles autour de nous, ici même, dans la rue. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, qu'est-ce que c'est les performances que tu fais?
Christelle, tu viens de parler du déchet. Principalement, je vais te répondre sur deux parties qui sont les mêmes choses. Le déchet m'intéresse parce que c'est quelque chose qu'on regarde pas souvent. C'est quelque chose d'inutile. J'aime beaucoup la notion d'inutile parce que ça me renvoie à quelque chose de plus profond, plus personnel. Parce que mon travail, dans mon enfance, j'ai pas eu beaucoup de soutien de la part de mon entourage, et j'étais considéré comme une personne inutile. Donc du coup, le fait de récupérer des matériaux qui sont là, qui existent, et qui sont considérés comme moches ou inaptes à être utilisés pour l'art ou pour la performance, m'intéresse beaucoup parce qu'effectivement, il y a une forme de profondeur et pour moi, la laideur, créer de la beauté à partir de la laideur, entre guillemets, parce que je dénonce cette notion de laideur, parce que je pense qu'il n'y a pas de laideur vraiment, il y a une forme de jugement vers les choses pas neuves, pas jolies, pas lisses, et ça vient du capitalisme, ça vient d'une société qui consomme, qui jette, voilà. Et voilà, donc j'essaie de les transformer, de les utiliser parfois en état brut, puisque j'aime beaucoup aussi l'idée de l'art brut. Voilà. Donc, et la deuxième partie, c'était sur les performeuses qui performent avec moi.
Parce qu'en fait, pour nos auditrices et auditeurs qui n'ont pas vu tes performances, on peut dire que les performances sont en forme de défilé de mode. En fait, donc on voit sur scène ou dans un lieu et des gens qui marchent habillés avec des choses qui ne sont pas des vêtements en fait.
Oui, effectivement, pas que. Parce qu'effectivement, avant de faire les beaux-arts, j'ai eu une formation en stylisme. Donc ouais, c'est une forme de défilé de mode que je déconstruis parce que effectivement j'avais compris et tout au long de mon parcours dans la mode et dans la haute couture que ce qui m'intéressait et le message que je porte surtout le message que je porte n'est pas vraiment que le vêtement et la mode ne peut pas le supporter, c'était insuffisant pour moi, un défilé classique. Donc le message était tellement énorme et très politique qu'un défilé classique ne pouvait pas le porter complètement. Donc voilà, donc ce que j'ai retenu de la mode, c'est cette idée de groupe, de horde de personnes qui marche vers une destination où, en général, on ne sait pas. Parfois, ils courent, parfois, ils marchent lentement, parfois, ils... Et du coup, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il y a plein de parallèles, plein de liens avec la chorégraphie, avec la performance, le théâtre, etc. Donc, j'ai commencé à réfléchir et à me dire, bah, tiens, comment je peux un peu hybrider cette forme de défilé qui peut nous renvoyer à plein de choses, hein, qui peuvent nous renvoyer à une manif dans la rue, mais aussi à un carnaval ou à l'histoire de la performance en elle-même, parce que l'histoire a commencé, l'histoire de la performance, avec les artistes marcheurs. Donc voilà, j'ai commencé à détourner un peu le défilé en créant des costumes, donc des objets plastiques dans le sens art plastique, qui sont animés par des corps. Et du coup, voilà, ça a commencé. J'ai commencé l'hybridation de cette réflexion autour du vêtement. Qu'est-ce qu'il veut dire? Et c'est quoi un défilé? C'est quoi une performance? Et voilà.
On a parfois l'impression que les performeuses, les performeurs qui marchent et en défilé, en performance, et sont des réfugiés qui sortent de la mer, d'un bateau. Et...
Ouais, ça c'était cette idée de naufrage. C'était pas pendant un défilé performance que j'avais réalisé en 2019 au musée de l'histoire de l'immigration et qui s'appelle Contamination. Et cette idée de, en fait, je me suis dit tiens, comment, puisque je me suis orienté vers le recyclage, vers le truc, etc. Je me dis comment je peux, une pierre de coup, pouvoir parler du problème de l'immigration et des personnes qu'on laisse se noyer dans la mer, dans les océans, et aussi le problème écologique.
C'est-à-dire la pollution, tous les déchets qui sortent de cette mer, de cet océan.
Effectivement. Donc je me suis dit, tiens, si on imagine ces zombies, ces immigrés qui se noient dans les mers, comme des poissons qui meurent, pas seulement... Parce qu'un poisson, il sait nager, et un humain, pas tous les humains savent nager, mais... Mais s'il y a des pollutions, etc. Bon, bref, s'il y a un sac plastique ou une énorme vague de déchets, la personne qui sait nager, elle peut plus survivre, elle va être coincée dans des trucs. Du coup, je me dis tiens, je vais créer. Ça peut être intéressant que ces gens-là, ces personnes, ces humains. En fait, j'ai imaginé comme un scénario qui raconte. Un naufrage qui survit et il y a ces gens-là, ces humains qui sortent de la mer et qui viennent contaminer le monde et qui sortent avec tous les déchets possibles qui existent dans nos océans, dans nos mers et du coup voilà, du coup il y a eu cette idée effectivement de naufrage et de personnes qui sortent avec une forme de pollution et tout. Mais après, effectivement, l'idée de l'immigration, elle est là parce que c'est un problème central, et puis parce que seulement je suis une personne exilée, réfugiée politique, mais parce que c'est aussi quelque chose d'important, quelque chose qu'on veut pas, on veut pas considérer et on veut pas regarder vraiment face, en face à face. C'est quelque chose qu'on détourne souvent et qu'on masque par des histoires qui sont inutiles. Voilà.
Ayoub et Jasmine a fait une pause cigarette. Tandis que je regarde les déchets qui nous entourent. Alors, de quels déchets il s'agit? Qu'est-ce que tu utilises pour créer tes performances? Quel genre de déchets?
Tout est possible, en fait. Ça veut dire, en fait, je suis attiré souvent par des choses qui ont du caractère, en vrai, qui sont inutiles, mais comme je disais, ça m'intéresse beaucoup, les choses vraiment destroy, quoi, les choses complètement irrécupérables. J'aime beaucoup cette idée de irrécupérable. Parce que quand même je cherche de la poésie dans cet acte de, comme tu disais, la substance de l'ADN irrécupérable. Qu'est-ce que ça veut dire être irrécupérable? Après ce déchet qui est irrécupérable, les gens l'admirent. Je veux renvoyer à partir de cette idée de irrécupérable et qu'une personne peut admirer un déchet limite brut tel qu'elle est, que je le mets sur un corps ou dans une installation. Bah, à ce moment-là, la personne qui admire cet objet, j'essaye de l'amener à avoir une réflexion plus profonde, à dire tiens, en fait, je jette ça, en fait, je peux peut-être l'utiliser, et que aussi l'acte en lui-même de la création n'est pas trop compliqué. On nous a dit que c'était trop compliqué. L'acte, pour moi, l'acte de la création, c'est quelque chose d'instantané, d'impulsif, de réel. Donc ouais, les matériaux, il y a plein de plastique, il y a plein de... Par exemple, là, voilà, je prépare une performance normalement qui sera en juillet avec un festival où je suis habitué à ce festival qui s'appelle Open Mode. C'est un festival engagé et en fait, j'ai travaillé vraiment... Ça va pas être des silhouettes... classique, ça va être vraiment un truc avec des sangles, avec des pierres. Il y aura pas de vêtements, il y aura pas de, ça sera des corps avec des, comment dirais-je, des matériaux bruts, mais pas cette fois-ci pas des déchets, mais plus en rapport à la nature, en rapport. En fait, c'est comme une sorte de miroir. J'ai travaillé souvent sur des matériaux qui polluent la nature, mais en les réutilisant. Là, je vais travailler sur, par exemple, des pierres, des cailloux, du sable, voilà, de la terre, de l'eau.
Matériaux organiques, on peut dire.
Organiques, effectivement, ouais, organiques. Donc voilà. Après les matériaux, un peu les déchets, c'est vraiment, je suis attiré par tout, quoi, par une poubelle qui est cassée, des pancartes, des signalétiques de rue, des câbles, des chaussures trouées, des choses, ouais. Et surtout parce que il faut savoir que j'ai commencé à faire du upcycling, c'est pas parce que c'est la mode, mais parce que par manque de moyens, j'ai eu une prof que j'ai jamais oubliée de ma vie, c'est ma prof de stylisme à S-Mode, Olivia, et elle, c'est...
S-Mode de Tunisie.
Oui, et c'est elle qui m'a fait initier au système D. Parce que j'avais pas, contrairement à mes camarades de classe, j'avais pas les moyens pour avoir tout neuf, etc. Et du coup, elle m'a dit, bah, en fait, il y a ça, tu peux faire du collage, tu peux faire nanana, tu peux faire nanana. Et du coup, j'ai commencé à récupérer des choses. Et c'est à partir de là où je me suis dit, quelques années après, me dire, bah, ok, bah, en fait, je vais faire avec ce qu'il y a et recycler ce qu'il y a tout le temps. Même là, genre mes collections, mes pièces. Je recycle beaucoup des choses qui sont... Je fais jamais une collection à partir de rien. Je fais souvent à partir de pièces qui existent, de mes pièces. Donc c'est un cycle je dis souvent, c'est se auto-consommer. Je me auto-consomme moi-même jusqu'à la fin, quoi, jusqu'à la mort. C'est, je me auto-consomme. Je me auto-suffis en moi-même. Donc parfois il y a pas, il me manque une veste, bah en fait je regarde dans ma garde-robe personnelle, je prends cette veste, je la découpe ou je refais autre chose. Je jette rarement et déjà je me trouve toujours souvent encombré par des choses parce que j'ai du mal à jeter. Même les petits bouts de tissu en fait, j'ai des sacs remplis. Et en fait c'est ça le truc, c'est que aussi on n'a pas de lieu où on peut recycler nous-mêmes. Donc voilà, c'est cette idée aussi d'inaccessibilité. C'est là où je suis arrivé à l'upcycling et au recyclage. C'est cette idée de faire du neuf, ça coûte cher déjà. Et puis voilà. Après, les gens, ils croient que faire du recyclage, c'est plus facile que de créer des nouvelles pièces. Mais pas du tout, parce que redonner vie à une nouvelle pièce, c'est une autre démarche que construire dès le début. C'est comme un bâtiment qui va s'effondrer au lieu de le détruire complètement pour refaire un truc qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'histoire. C'est plus évident de redonner existence, une âme à un bâtiment avec son histoire et le réanimer. Voilà. Le redonner une nouvelle chance, une nouvelle vie.
Quel beau mot. Et je peux vous dire, mes chers compatriotes, que le travail d'Ayoub Jasmina est une chose exceptionnelle et dans sa créativité. Une performance où un performeur marchait avec une seule chaussure, où les performeurs boitaient. Et effectivement, on retient ta belle idée de auto-recyclage. Autosuffisance. Et en fait, la solution pour la planète, c'est que tout le monde devienne artiste, voilà. En gros, c'est assez facile à convertir tout le monde.
Je pense que tout le monde peut créer. Et après, pour sauver le monde, ça, c'est autre chose. Moi, j'ai cru souvent que je pouvais sauver le monde. Et progressivement, en voyant à gauche, à droite, en lisant des choses, et que, en fait, la mission de l'artiste, c'est pas de sauver le monde, c'est d'essayer peut-être de rafraîchir les idées, de donner une autre possibilité. Parce que c'est un poids qu'on a. On croit souvent que les artistes doivent sauver le monde. Même nous-mêmes, on croit qu'on doit sauver le monde. Mais hélas, on ne peut pas le sauver parce que ça nous dépasse. Parce qu'on doit se sauver soi-même aussi. Donc, sauver le monde, c'est une grande question. Est-ce que le monde va être sauvé? Par qui? Comment? Mais on essaye quand même de participer à un éveil collectif pour que cet éveil collectif aboutit peut-être à quelque chose, à un sauvetage quelque part de ce qui reste en fait.
Merci beaucoup. Ayoub Jasmina, on attend avec impatience ta nouvelle création.
Bah de rien, merci à toi.
Vous êtes toujours dans l'émission Un peu d'air frais, l'atelier du documentaire avec Emmanuel Durand. On parle de son ouvrage L'envers des fripes, paru aux éditions Premier Parallèle. Et donc, dans ce livre, tu nous parles du Liban et de cette exportation finalement du textile, en fait, de ces vêtements de seconde main qui, au départ, sont mis soit dans des bornes relais, soit donnés à des associations et ensuite qui partent. Il y a un premier tri qui est fait, c'est ça ? Et après, ça part ailleurs.
Oui, c'est ça. Alors, pour revenir, parce que ça me semble important de rappeler ça, ça peut paraître un peu décalé, en fait, un peu anecdotique, ou de parler des fripes du point de vue du Liban. Parce que, en tout cas, sur cette idée du textile de seconde main, on a beaucoup d'images aujourd'hui des deux bouts de la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on voit soit les images, effectivement, plutôt en Europe, des bennes de collecte, etc., des acteurs associatifs. Donc ça, c'est un premier type d'image. Et l'autre type d'image qu'on a, qui est à l'autre bout de la chaîne de valeur, c'est les images qui sont beaucoup filmées ou photographiées en Afrique ou en Amérique du Sud sur ces plages, je pense notamment au Ghana ou dans le désert d'Atacama au Chili. Donc on a ces deux bouts de chaîne de la valeur et entre les deux, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et il me semblait intéressant en fait de regarder ça depuis le Liban, donc voilà, à l'échelle de cette économie qui est aujourd'hui globalisée, un tout petit pays qui voilà, participe à sa manière à cette filière-là. Mais aussi, ça me permettait en fait de replacer cette région-là du monde, donc le Liban et sa voisine, hein, la Syrie, dans une géographie et une histoire en fait de la production textile, parce que voilà, pour l'anecdote, mais il me semble important de rappeler ça, c'est que au moment, en fait, alors là, on est vraiment au 19e siècle, fin 18e, début 19e, au moment où les canuts, les ouvriers de la soie à Lyon se révoltent, hein, pour des meilleures conditions de travail, etc., les patrons, en fait, délocalisent à ce moment-là. Donc, voilà, on est dans les années... fin 19e, délocalisent leur outil de production au Liban, au Mont Liban. En fait, à ce moment-là, la Syrie et le Liban sont un même pays. Et donc, en fait, la Syrie et le Liban ont joué un rôle très important dans la production textile. Voilà, et rappeler aussi que les formes de délocalisation ne naissent pas, en fait, dans les années 1960, 1970, mais en fait, bien avant. Voilà, donc ça me permettait de rappeler un peu cette histoire-là, cette empreinte-là un peu du Liban et de la Syrie dans la production textile, et notamment voilà, de la soie, du coton qui était très importante. Et donc effectivement, entre le moment, pour revenir à l'époque actuelle, entre le moment où un vêtement va être déposé dans une benne de collecte associative, admettons, voilà, en région parisienne, et le moment où il est revendu, admettons, voilà, au Liban, il se passe tout un tas d'opérations de production, de conditionnement, d'emballage, de transport, qui viennent produire, et j'insiste sur le terme de la production, produire le vêtement de seconde main. Parce qu'on a ce sentiment que, puisque ça existe déjà, voilà, il n'y a pas besoin de système de production. Mais non, il faut en réalité voilà, des tas de femmes et d'hommes qui vont collecter, transporter, trier, emballer, parfois réparer, parfois laver, conditionner, donc mettre en balle. Alors, les balles, c'est des énormes sacs en plastique où les vêtements sont compressés. Ça pèse en moyenne 45-50 kilos. Et donc ça permet en fait de faire toutes les opérations logistiques de transport d'un pays à l'autre et les opérations de tri, parce que les opérations de tri, elles sont multiples en fait. Il y a un premier tri qui va se faire par l'acteur associatif qui va collecter dans la benne, où l'acteur associatif il va garder ce qui est de très bonne qualité, ce qu'ils peuvent revendre ou donner à leurs bénéficiaires. Mais on voit aujourd'hui, on y reviendra peut-être plus tard, je ne vais pas m'étendre maintenant dessus, mais qu'il y a vraiment une chute très importante de la qualité de ce qui est donné. Et donc, les associations se retrouvent face à une quantité de vêtements qu'elles ne peuvent pas revendre ou redonner parce que voilà, c'est pas dans un état d'usage assez bon. Donc, elles le revendent ou elles le donnent à des acteurs privés qui vont eux-mêmes refaire ce tri, redistribuer. Et on voit quand on suit un peu ces opérations de tri et de conditionnement qu'effectivement, alors moi dans les vêtements que j'ai suivis, ça m'amène en périphérie de Bruxelles, mais ça m'a aussi amené dans les zones franches de Dubaï où de plus en plus, le tri se fait là-bas parce qu'il faut bien comprendre que le tri, donc c'est vraiment un peu la clé de voûte, je dirais, de cette chaîne de production, parce que ça va être le moment où on va répartir un peu la valeur des choses, ce qui vaut beaucoup d'argent, ce qui n'en vaut pas beaucoup, où est-ce que ça peut aller, etc. Et c'est des opérations qui sont très coûteuses en main-d'œuvre. Parce que trier, c'est vraiment faire corps avec la matière, c'est la sentir, la toucher, la regarder, regarder l'étiquette de composition du vêtement, l'étiquette de la marque. Nos vêtements sont faits de multiples étiquettes, il faut toutes les regarder pour savoir dans quel bac les mettre. Et donc tout ça, en fait, il y a des tests hein, de mécanisation, de tri par infrarouge, mais on voit que ça marche pas tout à fait. Donc il faut des hommes, des femmes qui trient. Et donc une main d'œuvre qui coûte de l'argent pour les grossistes. Et c'est ça qui en tout cas moi le grossiste que j'ai suivi donc à Bruxelles qui a motivé en fait ce grossiste à délocaliser son outil de production à Dubaï dans une zone franche aussi qui lui permet voilà de s'affranchir d'un certain nombre de normes en termes de droit du travail, de rémunération, etc. Ce qui vient soulever un premier lot de questions sur voilà sur d'une part les circulations spatiales de ces vêtements-là qui parfois font le tour de la planète avant de revenir dans nos friperies en Europe, mais parfois ailleurs, et la question sociale de la main-d'œuvre en fait qui opère à produire cette marchandise.
Oui, puis les conditions de travail, elles sont pas, enfin comme tu disais, ils sentent et enfin c'est quand même des conditions de travail qui sont assez difficiles.
Oui, c'est vrai que beaucoup, on peut lire ça, le travail avec le textile de seconde main, comme une sorte de sale boulot. Alors je l'emploie au sens sociologique hein, du terme, qui est vraiment une notion qui définit à la fois voilà, un métier qui se fait avec des matérialités qui sont encombrantes. Alors encombrantes aussi au sens large, hein, c'est-à-dire il peut y avoir l'odeur, il peut y avoir le poids, la charge... La charge des choses et effectivement voilà c'est des métiers qui sont engageants vraiment corporellement avec la matière manipulée etc donc en termes de conditions de travail physique mais évidemment aussi voilà c'est des métiers comme tout métier des déchets et encore plus je pense qu'on peut l'élargir aux métiers et au secteur du soin hein, je pense voilà aux infirmières aux femmes de ménage, aux agents de manutention, enfin toutes ces activités qui sont voilà très très dures physiquement et en plus de ça invisibilisées et méprisées et avec des conditions de rémunération qui sont voilà qui posent question.
Et ben on va regarder un peu maintenant du côté du plastique. On a prélevé donc un extrait d'une conférence de Michaela Lemeur, une anthropologue aussi, qui a écrit l'ouvrage « Le mythe du recyclage », qui est paru dans la même petite collection Carnet parallèle que l'ouvrage que toi t'as écrit. Donc, son livre, c'est donc le mythe du recyclage. Et elle présentait son travail à Marseille. Voilà, donc on va pouvoir écouter. C'était une rencontre organisée par le collectif Les Gamards. Donc elle part, elle s'intéresse au Vietnam, elle est au Vietnam, elle fait son étude ethnographique au Vietnam, dans le nord du Vietnam. Alors je ne sais pas si je viens prononcer, à Minh Cai, Minh Cai.
Ce qu'on appelle le village du plastique d'ailleurs.
Le ruisseau il passe au milieu de ce village vietnamien qui est devenu un espèce de cluster du recyclage du plastique. Où moi j'ai parlé de le titre du livre là c'est le mythe du recyclage. Il y a vraiment un mythe parce que il y a un peu cette idée dans le village que on peut produire de l'or à partir du déchet. Et la photo là, ces deux photos le montrent vraiment bien parce que c'est un peu ça qu'on voit quand on arrive dans ce village. C'est des grandes maisons bourgeoises qui poussent sur des tas d'ordures plastiques. Des grandes maisons bourgeoises parce que au Vietnam, une maison traditionnelle, ça ressemble pas à ça. C'est plutôt une maison de plein pied. Enfin, dans plein de petites villes, on voit des maisons de plein pied, beaucoup moins spacieuses, etc. Là, il y a tous les attributs de la richesse. On a des volets en bois noble, on a un aigle sur le toit, on a des balcons. Vous voyez, on est vraiment dans une démonstration de richesse de la part des entrepreneurs du plastique. Qui ont fait fortune en fait du recyclage. Donc c'est vraiment ça qu'il y a quelque chose un peu d'un mythe local qui est en fait aussi contenu dans ces trois flèches là que vous connaissez bien et c'est un peu ça que je décrypte dans le livre. Et ces déchets plastiques ils viennent certes des petites collectes locales dont je vous ai parlé tout à l'heure avec ces paysannes qui collectent quelques bouteilles par-ci en porte à porte etc. Mais ils viennent surtout de containers qui viennent du coup dans ce port du nord du Vietnam, Haiphong, quotidiennement et qui alimentent le village en plastique exporté, donc des déchets plastiques exportés et qui s'entassent dans ce village et qui sont triés, transformés sur place. Ça nous concerne donc directement. Si ça ne nous concernait pas déjà suffisamment auparavant. Hein. En tout cas, là, on voit bien à quel point il y a une connexion entre les plastiques produits dans des pays du Nord. Et ces plastiques, ce sont les mêmes qui sont triés et recyclés au Vietnam. Et donc voilà, qui sont ces acteurs qui exportent ? Ça peut être plein de types, on pourra en discuter, mais notamment, et là je ne vais pas incriminer directement des acteurs, mais il faudrait retracer tout ça dans toutes les villes et dans toutes tous les acteurs de la collecte locale et du recyclage. Ça peut tout à fait être des centres de tri et de compactage qui ne trouvent pas de débouchés locaux pour recycler leurs matières et qui du coup trouvent des débouchés internationaux. Et c'est aussi ça qui se passe. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe au Vietnam quand ils arrivent? Ils ont fait leur grand voyage par conteneur. Vous imaginez bien que ce sont des plastiques qui sont, qui ont plusieurs mois de voyage en cargo, enfermés, empaquetés. Ils sont pas très propres quand même au départ, donc ils sont enfermés. Ils commencent à se putréfier ou en tout cas à sentir mauvais. Et donc on trouve au Vietnam des dames en fait qui les déballent. Ces grandes balles, ces containers de plastique sur le tas. Donc des ouvrières que j'ai rencontrées dans le village de Minh Cai, ce village de recycleurs de la Plastic Valley ou Delta des environs de Hanoï, et qui retrient en fonction des types d'arrivages. Parfois on a des arrivages entre guillemets beaux, qui sont plutôt blancs, plutôt clairs, et puis on a aussi des arrivages tout mélangés, qui n'ont pas le même prix hein, d'ailleurs sur le marché. Et donc ces dames retrient en fonction des couleurs. Donc il y a une esthétique un peu bizarre là qui se crée avec ce tri du rose, du bleu, du blanc, du noir. Et donc ces dames sont embauchées par des entreprises locales pour faire ce tri et puis refaire des petits paquets pour être envoyés dans les entreprises locales. Parce que en fait une balle de plastique qui est rentrée dans un conteneur, ça pèse très très lourd. Il n'y a que des camions énormes qui peuvent transporter ça. Donc il faut refaire des plus petites quantités, quoi, tout bêtement. Ensuite, les plastiques, ils vont arriver dans des chaînes de recyclage où ils vont être déchiquetés par des broyeuses et trempées dans de l'eau. Et c'est là que l'eau intervient notamment, hein, et qu'on va retrouver notre rivière à la suite. Ils sont déchiquetés, trempés dans cette eau, puis une fois qu'ils sont lavés ou décrassés sommairement, ils vont être fondus dans une machine qui est la machine un peu maîtresse de l'industrie du plastique, qui est l'extrudeuse. C'est une sorte de vis qui, par pression et fusion, va fabriquer cette espèce de lave plastique qu'on voit là, au milieu, et qui va avoir la couleur que lui destinait la qualité des matières d'entrée. Donc là, on a une lave plutôt claire par rapport à celle que j'ai pu voir. Une fois que cette lave va être réinjectée dans une machine qui va faire plein de petits filins de plastique, ça ressemble à des spaghettis. Ça sort pareil que des spaghettis par un filtre à filin. Il y a une machine qui va découper des petites pépites. Et ça donne ça à la fin, des pépites de plastique recyclées. Donc là, qui sont plutôt noires, vous le voyez. Et qui vont servir à autre chose. Donc c'est un peu ça l'or des recycleurs. Les déchets transformés en or, c'est ça leur pépite à eux. Et ces pépites, on peut en faire différentes choses, mais concrètement, refondre ces pépites-là pour refaire un objet juste à partir de ça, ça ne va pas donner grand-chose de fou. Ça va donner éventuellement des sacs plastiques poubelles, plutôt, avec une résistance très compliquée à la charge, par exemple. Donc ça va plutôt être des bâches ou des choses pour les transporter des plantes ou quelque chose comme ça. La sacherie industrielle, le sachet plastique, en fait, c'est pas une industrie de grande technologie, mais en fait, pour faire un sac plastique résistant, il faut pas mal de contrôle sur la qualité matérielle, et ça ne passe pas le contrôle. Sauf dans des petites fabriques locales, puisqu'il y a un débouché local du sac plastique, mais pour faire ces sacs plastiques jaunes, ou rose, comme ceux que sort cet ouvrier là d'une machine. En fait, on ne peut pas juste mettre des pépites recyclées. On est obligé de rajouter des matières supplémentaires, des colorants, donc faire une sorte de recette pour améliorer un peu la matière, ce qui montre déjà une des résistances du recyclage réel au mythe qu'on s'en fait, hein, c'est que le recyclage, il y a toujours une dégradation, et quand il y a une dégradation, bah, faut rajouter de l'énergie, rajouter de la matière pour essayer de ramener un peu de qualité, de valeur au produit. Et quand bien même on arrive à faire un produit, on va faire des sachets qui, par exemple, ne vont pas être adaptés à du contact alimentaire. Ça va être des sachets pour transporter des habits dans les marchés, etc. Et au Vietnam, les gens savent très bien que ce genre de sachets, on ne met pas de la nourriture dedans. Et d'ailleurs, sur les marchés vietnamiens, pour ceux qui connaissent, on voit ces petits sacs. Vous voyez un peu comment on peut transporter de la nourriture directement à même le sac plastique au Vietnam. Mais ça, ce sont des sacs plastiques cristallins. Et pour faire des sacs plastiques cristallins comme ça, comme cela, en fait, on utilise des granulés plastiques qui viennent directement du raffinage des hydrocarbures. C'est pas du plastique recyclé. Jamais.
Voilà, donc nous voilà de retour dans notre émission Un peu d'air frais, l'atelier documentaire en direct avec Emmanuel Durand. Et donc on est en train de parler de textile, on faisait un peu une comparaison entre l'international, en tout cas des déchets, la vie du plastique et puis la vie du textile. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une surconsommation de l'occasion.
Oui, le marché de l'occasion, enfin du textile d'occasion, rejoue un peu. Enfin, on peut voir des formes de jeux qui relèvent en fait de la surconsommation. Je pense notamment à tout ce qui va être les ventes au kilo ou l'application, toutes les applications numériques hein, aussi qui ont immiscé, y compris une grosse partie un peu de ce marché-là de l'occasion. Donc le marché de l'occasion du textile nous est présenté généralement comme quelque chose qui vient être une alternative à ce qu'on appelle l'économie linéaire, l'économie circulaire viendrait proposer une alternative qui serait présentée, plus vertueuse, etc. Donc on voit dans ces discours-là qu'il y a toujours une opposition assez binaire en fait entre ce qui serait d'un côté linéaire, ce qui serait circulaire, ce qui serait vertueux, ce qui serait vicieux, et donc une forme d'opposition comme ça entre l'industrie textile de la fast fashion, hein, de la mode jetable, et puis une filière textile qui relèverait de circulation de vêtements d'occasion. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, du point de vue de l'anthropologie, des sciences sociales, c'est de toujours aller voir, de se méfier, en fait, un peu de ces idées dichotomiques, parce que généralement, les choses sont toujours un peu plus complexes que ça, et de voir comment, peut-être, les choses s'en mêlent, comment ce qui est vertueux ne l'est pas tout à fait, qu'est-ce qui dysfonctionne, qu'est-ce qui dérive, etc. Et donc, à travers cette idée de la surconsommation, hein, on voit effectivement que ce qui est présenté comme une alternative vertueuse, finalement, rejoue des formes de surconsommation par des pratiques d'incitation à l'achat. Donc, je parlais de l'achat au kilo ou des applications numériques.
Et puis, on parlait de fast fashion, et en fait, on découvre dans cet ouvrage que finalement, dans le marché de l'occasion, on trouve aussi finalement les restes de la production de la fast fashion, en fait, ce qui n'a pas pu être vendu.
Oui, le deuxième constat, je parlais tout à l'heure des acteurs associatifs se retrouvent aujourd'hui avec des dons vestimentaires qui sont de plus en plus basse qualité, pardon. L'autre constat, c'est qu'il y a une hausse des vêtements neufs, de vêtements qui sont encore étiquetés, qui n'ont jamais été portés et qui arrivent sur les filières de la seconde main. Et ça interroge. On peut se dire d'un côté, bon, bah, c'est super, ça va venir rehausser un peu le niveau de qualité, puisque c'est du neuf, etc. Alors, pour certains dons, on se rend compte que c'est le cas, que ça, du coup, c'est des sortes de bons plans, des aubaines, etc., qui vont permettre à la filière de poursuivre. Mais on se rend compte que la plupart, en fait, de ces dons neufs sont... Bah, des formes de déchets déguisés parce qu'il s'agit de vêtements qui sont soit invendus, soit défectueux. En fait, et ça, il faut essayer de creuser un peu pour comprendre comment ils arrivent ici. Et en fait, dans le contexte français, en tout cas en 2022, il y a une loi qui est passée qui a interdit le fait de brûler, enfin de détruire les invendus. Avant, les industries textiles, les unités de production ou les entrepôts de stockage ou les commerçants, quand il y avait des invendus, avaient pour habitude de les détruire. La loi leur interdit désormais et ils ont l'obligation de les donner aux acteurs associatifs. C'était très important et de légiférer en fait là-dessus parce que c'était voilà une pratique extrêmement problématique qui en plus était très polluante parce que voilà les textiles aujourd'hui sont fabriqués à 90% de matières synthétiques donc de plastique et pour faire écho avec ce que disait Michaela voilà le fait de brûler en fait des plastiques est extrêmement polluant donc c'était très important mais on se rend compte qu'il y a des effets pervers à cette loi, qui a une initiative bonne au départ, puisque les industries textiles donnent désormais leurs invendus, leurs vêtements défectueux, leurs vêtements mal calibrés aux associations, en échange, et ça c'est important de le savoir, en échange en fait d'une défiscalisation, c'est finalement une manière d'externaliser la gestion de ces déchets, de ces vêtements qui ne peuvent pas être revendus. Et donc, les acteurs associatifs se retrouvent avec cette charge de vêtements, certes neufs, encore étiquetés, etc., mais qui sont défectueux et qui ne peuvent pas être revendus. Et c'est en ça qu'une partie de ces vêtements-là, finalement, suivent la filière qu'on a un peu décrite tout à l'heure, c'est-à-dire Bruxelles, Dubaï, et puis après le Liban, mais le Liban est un pays parmi d'autres qui récupère un peu ces marchés-là sur ces filières très globalisé. Donc c'est important de voilà d'avoir en tête que qu'aujourd'hui le neuf et l'usager se mélangent à nouveau. Alors toujours avec des distinctions en termes de représentation sociale, le neuf continue quand même d'être mieux vu que l'occasion, même si voilà les choses changent. Mais bon là ça dépend. Enfin les critères sont complexes et seraient trop longs à expliquer ici. Mais voilà c'est important de voir comment des efforts en termes juridiques peuvent produire des effets pervers qui viennent en fait fragiliser aussi les acteurs associatifs qui sont au départ en fait de ces chaînes de revalorisation.
Et puis ils profitent aussi, enfin si j'ai bien compris, pour ces grandes marques, l'idée c'est de produire beaucoup à moindre coût. Donc c'est encore une manière de rentabiliser aussi, c'est de pouvoir écouler dans des circuits de seconde main.
Oui, c'est ça. En fait, c'est que ce fonctionnement-là, le fait que les filières de la seconde main accueillent ces vêtements défectueux, permet à l'industrie textile de continuer à surproduire à un rythme freiné. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans le monde de l'industrie aujourd'hui, de la production, ce qui peut fragiliser les industries, c'est le stock. C'est ce qui n'est pas vendu, ce qui n'est pas écoulé, ce qui ne circule pas, ça vient encombrer les espaces d'entrepôt, ça coûte de l'argent, et donc c'est un risque en fait pour les industries. Là, ce qui ne peut pas être écoulé, ces vêtements défectueux, mal calibrés, etc., sont envoyés sur les filières de la seconde main. L'industrie textile n'a pas à s'en charger et en plus de ça, elle reçoit une défiscalisation en échange. Là où avant, le fait de brûler les textiles, c'était coûteux aussi parce qu'il faut payer des gens pour le faire, etc. Donc, ils ont tout intérêt, en fait. Enfin, cette législation est plutôt super pour eux. Et puisqu'ils n'ont pas à s'en occuper, ils s'en déchargent, ils les éloignent. C'est à la filière textile d'occasion et notamment associative de s'en charger. Eh bien, l'industrie textile continue comme ça de surproduire parce qu'elle n'a pas à se préoccuper de ces vêtements défectueux qui pourraient l'asphyxier, l'encombrer, l'étouffer. Et donc, finalement, là où on nous dit, on nous présente parfois la seconde main comme une alternative qui est vertueuse, on se rend compte que c'est certes une alternative, mais qui finalement permet d'alimenter le cycle de surproduction de l'industrie textile plutôt que de le résoudre et de l'encadrer, de le stopper, de le limiter.
Et bon, on se pose quand même cette question, après avoir cheminé un certain temps dans cette discussion, sur la question de la fripe écolo-éthique.
Oui, alors l'idée en fait moi c'était vraiment d'une part dans cette enquête de déplacer le débat, c'est-à-dire de se dire on est aujourd'hui dans des débats qui vont tendre à responsabiliser le consommateur, c'est-à-dire qu'il y a des formes d'injonction, il faut consommer éco-responsable, éthique, etc. Donc moi, j'avais envie de regarder ça du point de vue de la production plutôt que de la consommation, pour montrer aussi voilà, le nœud du problème, c'est-à-dire la surproduction textile. Et c'est là, peut-être, qu'il faudrait responsabiliser, encadrer les choses. En mettant en lumière un peu les dérives, les problématiques environnementales et sociales que soulèvent certaines filières de la seconde main, c'est aussi pour mieux mettre en lumière ce qui fonctionne, les alternatives qui sont effectivement vertueuses, parce qu'il y en a. Je pense notamment, par exemple, aux pratiques de dépôt-vente, hein, où en fait, on est dans une remise en ressources extrêmement locales qui fonctionnent bien. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que les filières de la seconde main sont extrêmement plurielles et que parmi elles, effectivement, la majorité suivent des chemins qui sont problématiques. Mais ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est de... Enfin, par rapport voilà, à la situation qu'on traverse, c'est quand même de faire avec ce qui existe déjà, de faire au mieux pour reprendre un peu ces gestes de la réparation, de la récupération, pour faire durer un peu plus les choses, aimer encore un peu plus un vêtement qui peut-être est passé de mode, mais voilà, faire en sorte qu'on va quand même le garder près de nous plutôt que de le donner ou de le revendre sur une application. Donc de réadopter un peu ces gestes qui prolongent un peu plus la durée de vie des vêtements qu'on a dans nos placards, en fait.
Alors, on va écouter un reportage de Christelle qui est allée rencontrer Alexandra Latour, une styliste qui fabrique, enfin qui réalise des vestes uniques à partir de jeans recyclés.
Mes chers compatriotes, j'ai franchi les portes d'une maison de couture en direct. Vous entendez bien les travailleurs basson plein ici depuis l'aube. Ça brode, ça coude. Waouh! Mais voici face à Alexandra qui travaille ici. Bonjour Alexandra.
Bonjour Christelle.
Et Alexandra, tu as créé la marque et la veste en jean. Comment tu as créé cette marque de mode et quand ?
Alors, j'ai créé cette marque en 2020. C'était une idée que l'on a eue avec trois autres personnes. Et on avait envie de développer une marque sur un principe de recyclage. Et en se posant certaines questions, on s'est dit le denim est très polluant à sa fabrication, parce que le textile est le deuxième plus grand polluant. Donc on a considéré que c'était important de s'investir dans cette démarche. Et on a été assez pris par cet engouement de cette marque, parce que cette marque, c'est du denim, mais ce sont des pièces qui sont aussi brodées, donc qui les rend assez particulières et exceptionnelles.
Je ne veux pas détruire la planète moi-même, mais est-ce que la création et l'environnement sont compatibles, ou est-ce que le respect de l'environnement est une chose qui limite la création ?
Non, je crois qu'au contraire, on arrive à mieux créer avec des contraintes. Et ce parti pris d'utiliser du denim, et en plus d'utiliser du denim qui est issu de nos anciens jeans, rend cette matière assez particulière, avec toutes les teintes qui sont les teintes de denim. On a des dégradés incroyables, on a de l'usure de ce jean qui est même sublime de temps en temps, qui rend même certaines fois la matière comme un peu comme une peau de pêche, tellement c'est ça les rend doux à l'usure. Donc non, la création, je pense qu'avec notre artisanat d'art, puisqu'on est brodeur aussi, on a un atelier de broderie, on vient utiliser ce savoir-faire, sublimer la matière, et du coup la création, ça nous porte énormément en fait. Cette création, elle est... elle semble complètement... c'est une naissance, c'est un fil conducteur, ça me semble tout à fait logique. C'est une démarche qui fonctionne bien entre un artisanat d'art et réutiliser d'anciennes matières. Ça s'y prête tout à fait, parce que les artisans peuvent utiliser des petites chutes, on utilise aussi des chutes de cuir. Donc non, je pense que c'est bien compatible.
Ce qu'on voit dans tes créations, c'est d'abord des vestes extrêmement originales. Ça, c'est clair que dès qu'on voit une veste, on veut absolument la porter tout de suite. Et c'est presque fait sur mesure.
Depuis le début de la création de cette marque, on a vendu parfois pour des clients particuliers une surcommande. Mais sinon, c'est vraiment du prêt-à-porter de luxe. Mais on a donc toute une déclinaison de taille, mais on travaille à la commande. Pas systématiquement, mais on va avoir un nouveau showroom et on va pouvoir proposer certaines pièces déjà réalisées. Mais c'est vrai que les clients peuvent venir avec une idée particulière et on leur propose des échantillons et on part sur leur thématique. C'est très intéressant aussi de travailler comme ça. Mais ça, c'est vrai que ça, on approche l'idée de travailler comme en haute couture aussi, mais du denim. Les mentalités ont beaucoup changé. Hein. On voit beaucoup de personnes qui achètent en friperie. Là, on utilise des anciens jeans, on vient les ennoblir et on vient passer parfois, enfin, régulièrement minimum 15 heures, 12-15 heures dessus. Et après, on a eu une veste, on a passé 120 heures dessus. Donc forcément, le temps... Ça coûte de l'argent, mais c'est un investissement, c'est même une pièce qui peut être transmise aux enfants. C'est-à-dire qu'après, voilà, c'est une pièce exceptionnelle dans sa garde-robe. J'ai vu une cliente qui nous a acheté une veste en se disant, j'en suis sûre que ma petite fille, elle adorera cette veste. Donc c'était impressionnant de la voir choisir une thématique assez rock. C'était une veste qu'elle porte assez régulièrement, je la vois souvent avec.
Tu travailles seule ici ?
Non, du tout, j'ai une super équipe. On est jusqu'à parfois 5. Enfin, on est une personne qui vient de temps en temps en freelance. Et autrement, je travaille avec Moussa, qui est en poste depuis de nombreuses années, parce qu'il a fait de l'apprentissage auparavant. Pris savoir-faire en transmission aussi. Et là, il vient d'être embauché en CDI. Et puis, j'ai deux alternants. Un alternant qui est à l'école de Condé et une alternante qui est à l'école de l'IFM.
Donc en fait, tu fabriques pas en Indonésie au sous-sol et sombre, c'est ça que je comprends?
Non, pas du tout. Et puis d'ailleurs, l'idée principale de cette marque, c'est quand on avait vu le désastre 16-2018, je sais plus, au Bangladesh, cet immeuble qui s'est effondré. On ne peut pas rester impassible, on ne peut pas rester comme ça sans rien faire, alors qu'on a les moyens d'agir, on a les moyens de faire des choses. Je ne dis pas que c'est simple, parce que c'est vrai que de se lancer dans une marque, déjà, c'est beaucoup de travail, mais il y a vraiment beaucoup de personnes qui adorent cette marque et qui sont souvent prêts à nous aider, à nous accompagner. On a une belle équipe aussi de mannequins qui nous accompagnent lors des défilés. Non, c'est assez chouette.
Et en fait, toi, tu as beaucoup d'expérience dans le domaine de la mode. Et avant 2020, c'était ton métier et depuis et toujours. Et qu'est-ce que tu as retenu de ton expérience comme employé dans le domaine de la mode, en fait? Comment ça a influencé ta création aujourd'hui?
C'est la précision, en fait. J'ai appris beaucoup de... c'est l'exigence du travail bien fait, de la patience, parce que c'est énormément de temps. Donc c'est vraiment le temps qui est important sur cette démarche et sur le travail dans les maisons de couture. C'est un modèle, on n'est pas effrayé quand on nous annonce que ça va prendre 300 heures. Bon, on n'en est pas là parce que nous, on n'a pas encore la clientèle pour, mais on vise des modèles assez d'exception et des modèles qui peuvent prétendre à de la haute couture, sachant que la haute couture, c'est un label et il faut obtenir ce label.
Est-ce que la mode engagée, la mode est responsable est réservée aux riches?
C'est une question qui est un peu délicate. On a la possibilité aussi de réaliser, on réalise des casquettes, on a des choses qui sont à moindre coût. C'est vrai que quand on va sur notre site, on voit des vestes qui sont quand même très chères. Mais on commence à réaliser des modèles avec moins de broderie. On commence à réaliser des petits bustiers qui peuvent on peut proposer des modèles quand même beaucoup moins chers que ceux qui sont sur le site, par exemple. Mais non, je pense pas. On peut aborder, mais avec des petits objets, des petits porte-monnaies, des petites choses comme ça. C'est vrai que le luxe peut être abordable. Après, je pense que le luxe, c'est d'acheter quelque chose qui est assez particulier, que l'on ne retrouve pas partout.
Est-ce que réduire la consommation fait partie de l'engagement écologique, en fait?
Oui, je trouve que tout à fait. C'est bien choisir ce que l'on achète, ce que l'on veut avoir dans son dressing, ça fait partie d'une démarche écologique. Acheter un vêtement qui est bien fait, avec une matière qui est réalisée, enfin avec un vêtement qui est réalisé avec un tissu qui est de qualité. Et nous, quand on sélectionne par exemple les jeans, on vérifie la qualité du jean avant de le découper.
Vos sauces sont sélectionnées, en fait?
Oui. Au lieu de dérouler un simple rouleau sur une table, on vient récupérer des jeans, enfin on les achète auprès d'Emmaüs. Donc c'est énormément de temps à la découpe, c'est-à-dire qu'il faut enlever toutes les coutures avant de pouvoir découper en fonction du patronage pour pouvoir monter la veste. Donc c'est vrai que c'est une démarche qui est très longue. Mais qui est très écologique, c'est-à-dire que l'impact carbone est quasiment nul.
Et je dois dire à nos auditrices et nos auditeurs que ça se voit dans le résultat final de la veste. On voit l'histoire de la veste quand on la porte.
Oui, on garde souvent une homogénéité de la teinte, mais on voit, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on voit par endroits, sur des zones de veste, l'usure du jean, et le fait d'avoir toutes les surpiqûres sur le denim, ça rend les pièces assez, assez belles, quoi.
C'est comme un travail, pas d'archéologie, mais d'histoire un peu aussi.
On a parfois, c'est vrai, certains denims où c'est assez drôle parce qu'on voit l'usure au niveau des genoux, par exemple. Mais parfois, quand on utilise ces denims sur les manches, ça donne un effet comme si c'était une impression qui avait été faite, alors que c'est l'usure du jean. Et parfois, quand on vient rebroder dessus, ça vient souligner cette usure parfois sur les vestes.
Il y a une veste que vous présentez sur votre site qui représente peut-être votre démarche, qui est basée sur les tatouages d'une mannequin.
Oui, c'est Stéphanie Lambert qui a énormément de tatouages, qui a bien voulu se prêter au jeu. C'est-à-dire que Stéphanie Lambert est venue me demander voir si c'était possible de faire une veste. Et on a collaboré ensemble. C'est-à-dire que je l'ai prise en photo, j'ai pris tous ses tatouages en photo, je lui ai fait essayer une veste qui lui allait parfaitement bien, une taille 38. Et je ne l'ai pas vue pendant 3 mois. Et j'ai travaillé sur son modèle en faisant plein de croquis, en adaptant tous les dessins que j'avais réalisés pour avoir l'exactitude de ses tatouages à l'emplacement sur son corps, en fait. C'est un peu difficile à expliquer, mais quand elle est venue la veille du shooting, donc 3 mois après, il manquait juste une manche. Elle avait une émotion qui était impressionnante de retrouver chaque détail sur cette veste. Donc on a eu après donc un shooting qui a été réalisé et une publication dans Faust Magazine suite à ça. Donc c'est vrai que cette veste représente 120 heures de travail.
Waouh, mes chers compatriotes. Et si vous voulez, vous pouvez retrouver les images sur notre site internet airfray-radio.fr. Merci beaucoup, Alexandra.
Merci, Christelle.
Donc, on est toujours dans l'émission Un peu d'air frais, l'atelier du documentaire avec Emmanuel Durand. On parle de Fripp. Et effectivement, il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé directement, c'est celui donc de vente de vêtements de seconde main par Internet.
Oui, on voit un autre constat en fait qu'on peut faire sur l'évolution de ces filières de la seconde main, c'est que il y a eu une diversification un peu des acteurs. On a parlé des acteurs associatifs, des grossistes, etc. Et depuis quelques années, il y a tous les acteurs de ce qu'on appelle l'économie de plateforme. Donc je pense là aux plateformes de vente entre particuliers, et notamment la première, hein, Vinted en France, qui sont arrivées et qui ont pris en fait une part très importante du marché, qui ont aussi un peu fait changer les pratiques, parce qu'on voit, on a parlé, hein, le vêtement usagé, il peut être rugueux, il a une odeur, il a une histoire, etc. Et donc ça venait aussi peut-être parfois freiner certaines pratiques de consommation. Et Vinted a amené d'autres consommateurs, puisqu'on est là sur une plateforme très lisse, il n'y a pas les odeurs, il n'y a pas le toucher, on consomme comme ça de seconde main. Donc ça a amené des nouveaux clients et en même temps c'est venu bouleverser toute la filière, et notamment c'est venu fragiliser alors les acteurs associatifs de la collecte, mais plus largement tous les acteurs en fait qui suivent, c'est-à-dire les grossistes à Dubaï, les grossistes en Belgique et évidemment les marchés au Liban, mais voilà partout dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte aujourd'hui avec l'arrivée des plateformes que il y a une nouvelle tendance qui va être, on va avoir plutôt tendance à revendre un vêtement sur la plateforme plutôt que de le donner à un acteur associatif. Il y a des pratiques de don qui perdurent, mais ce qui est donné va être le vêtement qui est un peu usé, où on ne peut pas trop tirer d'argent, où c'est une marque avec un prestige très faible. Et donc ça vient, on a parlé tout à l'heure de cette chute de la qualité des dons, et les plateformes sont en fait un peu le fruit, enfin la raison un peu de cette chute de qualité, donc qui vient un peu fragiliser la filière. Ça, on peut regarder ça en prenant un peu de recul, en se disant, enfin en se posant la question des pratiques de don, des pratiques d'abandon, de comment en fait l'arrivée des plateformes numériques sur ces filières-là est venu un peu dévoyer le don, c'est-à-dire qu'il y a un peu cet amenuisement du geste gratuit du don, où voilà, puisqu'on a avec ces plateformes, enfin ces économies de plateforme, l'ubérisation de la société, où en fait tout échange de services, de biens et marchandisés aujourd'hui, ça pose problème sur ces filières qui reposent à la base sur un don gratuit de quelque chose qui vient après fournir la matière première à d'autres filières.
Et puis il y a un sujet aussi qui est intéressant de développer un petit peu par rapport à toutes ces ventes par Internet, c'est effectivement toute la logistique qu'il y a derrière.
Oui, tout à fait. En fait, pareil, j'avais aussi toujours envie de regarder ça un peu moins du point de vue d'une sociologie de la consommation que plutôt d'une anthropologie du travail. Et on se rend compte que derrière cette un peu déconstruire les discours un peu qu'on nous présente, donc cette application, elle se présente comme quelque chose de simple, de rapide, de lisse, etc. Et qu'est-ce que tout ça vient cacher, sur quel outillage, quel dispositif technique, mais aussi sociaux, ça repose. Et donc regarder ça du point de vue du travail, ça implique en fait d'aller faire l'enquête que finalement j'ai commencé là en bas de chez moi, c'est-à-dire en allant dans le relais colis qui se trouve au coin de ma rue, et puis voilà, discuter avec cette personne sur combien il tire d'argent de cette tâche de travail, c'est-à-dire de recevoir des colis ou de les faire partir. Après de poursuivre l'enquête avec les livreurs en fait qui approvisionnent justement les relais colis entre les entrepôts, etc.
de poursuivre l'enquête auprès des manutentionnaires, des caristes, des agents de tri qui opèrent dans les entrepôts, notamment en banlieue parisienne. Et quand on déplie un peu l'enquête sur tous ces types de travail qu'on peut en fait mettre sous une même catégorie de travail de la logistique, hein, parce qu'on est sur des formes de manutention, de transport, de tri, de conditionnement, qui en fait sont essentiels, sont cruciaux pour que la plateforme numérique fonctionne. On se rend compte aussi qu'on est sur des formes d'emploi qui sont extrêmement précaires, qui tendent de plus en plus à être précarisées. C'est des secteurs d'emploi qui recourent beaucoup à l'intérim, etc. Et donc, ça pose question aussi à notre propre échelle, hein, de sortir d'une vision un peu ethnocentrée en se disant les conditions de travail, effectivement, sont problématiques dans ces entrepôts de tri dans les zones franches à Dubaï, certes, mais aussi, en fait, en bas de chez nous, comment les choses se passent, comment sur quelle architecture sociale et spatiale repose l'application Vinted, quels travailleurs elle mobilise et dans quelles conditions ils opèrent. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant en fait de rendre visibles aussi ces outils de production-là que sont les mains-d'œuvre logistiques qui permettent à l'économie de plateforme de fonctionner aussi bien, aussi vite, mais à quel prix.
Et puis après, il y a aussi une transformation un peu de l'espace avec tous ces entrepôts qui se développent aussi en région parisienne pour accueillir tous ces colis.
Oui, bah c'est intéressant. Là, c'est un chantier que je commence tout juste, mais de réfléchir un peu à cette conteneurisation du paysage avec ce développement des entrepôts et qu'est-ce que ça rejoue aussi en termes de représentation sociale où en fait, c'est des zones, les zones industrielles, les zones commerciales, les zones logistiques. Tout ça, c'est associé à ce qu'on a pu appeler ou ce qu'on appelle encore la France moche. Donc avec cette espèce de mépris aussi pour ce paysage, mais aussi pour en fait cette classe ouvrière, cette classe de travailleurs. Qu'est-ce que ça raconte aussi de quelle place est octroyée à quel type de travail, à quel type d'architecture. Et effectivement, c'est intéressant de voir toujours, de mettre en regard le social et le spatial, quelle place on leur octroie et quel discours en fait autour.
Alors, on va faire une petite pause musicale et ensuite, on aura par téléphone Cédric Picot qui va nous parler de son film Le Polygone, un secret d'État. Là, on sera plutôt du côté des déchets de l'industrie.
Sitting on the oceans and upon high seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be. Lost my radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are dying. Mercy, mercy me. Mercy, all things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more be used from man? Can't you stand?
Bonjour Cédric Picot, est-ce que tu nous entends ?
Parfaitement.
Parfaitement, bonjour. Donc on va parler de ton film Le Polygone, un secret d'État, qui a été diffusé en octobre sur France 3 Grand Est, et qu'on a pu aussi voir sur Internet, je ne sais pas si c'est encore possible.
Normalement c'est toujours possible,
oui. D'accord. Donc là tu as mené une enquête sur un centre d'expérimentation nucléaire de l'armée, qui s'est installé donc dans la Marne, à Moronvilliers, de 1958 à 2013. Voilà, donc tu peux nous en dire quelques mots ?
Alors, oui, c'est un site qui est tout à fait, qui est un peu particulier. En fait, c'est même pas vraiment un site de l'armée, c'est un site du commissariat à l'énergie atomique, de la direction des applications militaires du commissariat à l'énergie atomique, qui fait des tests pour la bombe atomique française, pour le détonateur de la bombe atomique française, plus précisément. Donc, c'est la direction des applications militaires du CEA, c'est arroger en fait 500 hectares dans l'enceinte d'un terrain militaire, mais ce n'est pas une emprise de l'armée, c'est une structure civile, la direction des applications militaires du CEA. Et effectivement, ils ont commencé leurs activités là-bas en 1957, pour être plus précis, clandestinement au début, puisque le programme nucléaire français n'était pas encore lancé quand ils ont commencé à faire leurs essais. Et ils ont quitté le site en 2013. Donc il y a eu, on va dire, presque une soixantaine d'années d'activité sur ce site.
Et donc c'était effectivement, les villageois, enfin les gens qui habitaient autour, jusqu'à 6 km, pouvaient entendre les explosions donc, de ces essais de détonateurs.
Alors le lieu est un peu particulier. Cette colline, en fait, elle était sur la ligne de front de la Première Guerre mondiale. C'est pour ça que c'est devenu ensuite un terrain militaire, parce que la zone était devenue indélinable. Et on est dans un secteur qui a une densité de population qui avoisine celle du Sahara. Donc, ils sont arrivés là-bas parce qu'il y avait effectivement une densité de population qui était très faible, qui avait ce terrain militaire qui était sécurisé et interdit d'accès déjà qui les intéressait. Et oui, les villages qui sont autour de ces collines entendaient régulièrement des tirs. Il arrivait même que ça casse les carreaux de certaines maisons qui étaient situées dans l'axe de l'onde de choc. Voilà, le vitrail de l'église de Pont-Favergé aussi a ramassé. Enfin voilà, il y a eu des décennies où les explosions étaient vraiment très fortes et où les gens vivaient avec ça régulièrement à côté de chez eux. Ouais.
Sans savoir exactement de quoi il s'agissait, c'est-à-dire qu'il y avait des habitants qui travaillaient, qui faisaient l'entretien, la surveillance du lieu, mais il y avait une omerta qui pesait sur eux.
Alors c'est ça qui m'a intéressé dans cette histoire, et c'est ce qui m'a motivé pour faire ce film, c'est que dans cet endroit, il y a vraiment deux mondes qui sont rencontrés, des ingénieurs qui étaient vraiment, on peut dire, hein, parmi les meilleurs de leur époque, qui travaillaient là-bas, et qui mettait au point ce dispositif qui était extrêmement sensible et extrêmement technique. Et pour faire tout ce qui était, je vais pas dire les bases d'œuvre parce que ce serait dégradant, mais pour faire tout le travail qui était un petit peu secondaire, toute l'intendance, c'était des gens des villages alentours qui venaient. Donc toutes les entreprises de travaux publics, de bâtiments, des peintres, des menuisiers. Et donc ces gens-là, savaient qu'il se passait quelque chose, mais ils savaient pas vraiment quoi. Et c'était un peu devenu le secret de Polichinelle dans le village. Ce site classé secret défense est devenu une espèce de secret de famille. Et moi, c'est cette rencontre en fait entre ces deux logiques et ces deux mondes qui m'ont intéressé pour faire ce film.
Donc toi, tu as rencontré le maire du village, Damien Girard, qui a porté plainte, a déposé une plainte contre le commissariat à l'énergie atomique et l'État pour pollution radioactive à l'uranium.
Alors oui, en fait, Damien Girard, avant de devenir maire de Pont-Favergé, il a pris en main ce dossier. Quoi, je dirais, c'est lui qui a brisé le tabou dans le village en posant le sujet devant tout le monde à la salle des fêtes il y a une vingtaine d'années. Ça a été le premier à le faire, et c'est lui qui a vraiment jeté ce pavé dans la mare là-bas. Et pendant des années, il a cherché, enquêté, il a essayé de recouper des informations. Et à force de frapper, je dirais, à la porte de cette institution, la direction des applications militaires du CEA, il a réussi à avoir certaines informations, et notamment celle que, voilà, il y avait énormément d'uranium appauvri qui était utilisé sur le site pour faire leurs expériences, et qu'il restait encore de nombreux déchets sur place. La plus grosse inquiétude qu'il y a aujourd'hui, c'est que il y a notamment des expériences qui étaient menées dans des puits qui étaient forés à la verticale de la colline directement dans la craie franche, et il y a plusieurs dizaines de puits qui ont été creusés pour faire des expériences, et dans 5 de ces puits l'expérience n'a pas réussi, et ce qui fait qu'on se retrouve toujours avec plus de 2,5 tonnes d'uranium qui serait coincé au fond de ces collines à moins une profondeur de plusieurs dizaines de mètres et qui menacerait à terme la nappe phréatique.
Et même les explosions, enfin tout pendant l'activité donc de ce centre, est-ce que ça dégageait déjà des pollutions pour environnementales pour les gens qui habitaient là ou
Alors moi j'ai recueilli des témoignages de gens qui étaient notamment chargés de nettoyer les dalles de tir une fois qu'ils avaient fait les expériences. Moi il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de ces petits cailloux un peu jaunes, verts, moirés qu'ils trouvaient et puis ça les amusait beaucoup parce que quand ils shootaient dedans avec leurs pieds ou quand ils les jetaient par terre ça faisait des étincelles. Donc il y avait visiblement il y a quand même pas mal de matières qui ont été répandues là-bas. Et puis il y a aussi une doctorante de l'Institut physique du globe qui a fait une étude là-bas sur la migration de l'eau dans la craie, qui avait noté dans son rapport que l'uranium avait tendance à descendre dans la craie, qui est un milieu assez poreux en fait, qui n'est pas du tout imperméable, et que cette pollution elle descend lentement mais sûrement, et elle risque de menacer les ressources en eau à terme.
Et en fait tout ça sans information, enfin en réalité les habitants n'ont pas été informés des risques qu'il y avait pour leur santé, pour de tous ces déchets sur place et de cette pollution.
Alors c'est une institution qui est quand même très particulière. De par la nature de leurs activités, le secret était quelque chose de vraiment très important et très protégé sur place. Faut se rendre compte que la période forte d'activité de ce centre, c'était en pleine guerre froide, où pendant quand même quelques décennies, on nous a menacé de, il y avait une vraie peur de l'apocalypse nucléaire. Donc, sachant que le détonateur est la pièce la plus sensible de la bombe. Il y avait vraiment des questions de sûreté qui se posaient là-bas et qui étaient vraiment poussées à leur paroxysme. Il y avait une vraie culture du secret et qu'ils ont réussi à instiller auprès des gens qui travaillaient chez eux. Donc personne n'en parlait, personne ne posait de questions. Ils étaient quand même assez tranquillisant avec les gens. Et la seule chose qu'ils leur disaient, c'est que c'était pas des vraies bombes atomiques, on n'utilisait pas de matière fissile. Et donc, à partir de là, les gens étaient rassurés. Et il y a effectivement un secret qui a été gardé pendant plusieurs dizaines d'années, non seulement par l'institution, mais aussi par les gens du village qui travaillaient là-bas et qui étaient généralement très heureux de travailler là-bas. Et ils avaient ce sentiment d'appartenance et de loyauté qui faisait qu'ils protégeaient aussi le fonctionnement de ce site.
Alors donc cette affaire elle est en cours et je ne sais pas quand est-ce que l'issue sera dévoilée. En tout cas, on peut voir le film donc sur le site de France 3, c'est ça ? France Télévisions.
Oui, il suffit. Vous allez sur un bon moteur de recherche de votre choix et puis vous tapez le polygone France TV. Normalement, vous retombez directement sur le lien pour aller le voir sur la plateforme de France Télévisions.
Merci Cédric Picot.
Merci à vous, merci beaucoup.
Eh bien, à une prochaine fois alors.
Avec plaisir, merci.
Au revoir.
Au revoir.
Alors, nous sommes toujours avec Emmanuel Durand. Et ce qui nous intéressait aussi dans ce film, c'est d'élargir la question, effectivement, ne pas parler que des déchets de particuliers, mais aussi parler des déchets de l'industrie. Et puis, ce qu'on peut aussi, cette omerta autour de la souillure des sols et de ces déchets pour les habitants, ça nous paraissait résonner avec un certain nombre d'autres déchets, finalement, les déchets en général, dont on ne sait jamais trop ce qui se passe. En fait, en réalité, on produit, mais les ordures, c'est un autre monde et c'est plutôt caché, finalement.
Oui, et ça me fait penser, là, l'intervention me fait penser à un terme, en fait, qu'une anthropologue américaine. Mary Douglas a conceptualisé à la fin des années 60 qui est l'idée de la souillure. Vous avez mentionné cette notion-là, où en fait, elle explique que la souillure, c'est non seulement quelque chose d'organique, d'hygiénique, qui est la saleté, la tache, etc. Enfin, on peut avoir, voilà, de prime abord cette vision-là, mais elle étend en fait cette notion pour dire que c'est aussi quelque chose qui trouble. Ou qui menace un peu l'ordre social et moral des choses, du monde, de l'avancée du monde. Et donc, en fait, on se rend compte, à travers son élargissement de cette notion de souillure, qu'il est question d'espace. D'espace, et que toutes ces matières, donc, que ce soit dans ce cas-là sur lequel porte le film, ou le cas des déchets plastiques au Vietnam, ou des déchets textiles au Liban, mais aussi ailleurs, on voit bien qu'on est à chaque fois dans des logiques d'invisibilisation, plus ou moins grandes, qui relèvent en tout cas de logiques d'éloignement, donc l'éloignement spatial, c'est-à-dire qu'on éloigne comme si c'était loin des yeux, quoi, et des logiques d'externalisation de la gestion des choses, c'est-à-dire qu'on externalise à d'autres personnes la gestion de nos déchets, et ça rejoue quand même une logique de domination quand même des nords vers les suds, hein, généralement, on peut aussi penser des villes vers les milieux ruraux. Enfin voilà, on peut un peu étendre la réflexion. Mais il me semble, à travers cette notion de souillure au sens large, de réfléchir un peu, de nous amener à réfléchir de façon peut-être un peu critique sur cette notion d'économie circulaire, en fait, où à travers cet imaginaire, Michaela en parle aussi dans son livre, cet imaginaire comme ça d'un rond, qui tourne sans cesse sur lui-même. En fait, cette idée du rond vient faire disparaître le déchet, comme si le déchet n'existait plus avec l'économie circulaire. Or, il est important, à travers des films, à travers des enquêtes ethnographiques, d'autres enquêtes, etc., de regarder de très près le déchet, de voir où il est, où il a été amené, qui s'en occupe, dans quel territoire, qu'est-ce que ça induit sur les sols, sur les milieux de vie, sur les personnes, pour en fait vraiment revisibiliser le déchet qui est éloigné de nos milieux de vie et il est enfoui, caché, etc. Mais il existe encore, en fait, il est là, quelque part.
Oui, à la circulation, donc cette conception circulaire, à un moment donné, les déchets finissent par se retrouver dans des cul-de-sac, parce que la circulation, il y a une finitude.
Oui, exactement. À un moment, le déchet sort du cercle et ne circule plus, s'arrête quelque part, et généralement, voilà, on est quand même dans des espaces qui sont plutôt situés dans les suds, où le déchet reste finalement caché, enfin en tout cas de nos yeux à nous, parce qu'ils sont très visibles aux yeux des populations qui vivent sur place, évidemment. Mais c'est intéressant de regarder ça de près.
Il y a une sorte d'omerta aussi, je pense, sur ces sites où l'échouage définitif.
Oui, alors après, ça vient, ce qui est intéressant, en tout cas, c'est le cas au Liban. Les Libanais sont très conscients, en fait, des chemins qu'empruntent les filières textiles de seconde main. Et il y a une forme, en fait, de revendication, d'émergence de subjectivité politique qui disent, en fait, nous, on ne veut plus être la poubelle du monde. Donc, il y a des formes de relocalisation des filières de seconde main, parce qu'ils veulent quand même s'habiller de seconde main, mais ils relocalisent, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer les textiles qui circulent à l'échelle du Liban. Mais c'est intéressant aussi, parce que les gens, au Liban, en tout cas dans les Suds, de façon générale, sont conscients de ça. Et ça vient aussi former des discours politiques qui se soulèvent, en fait, contre ces logiques de domination.
Eh ben, merci beaucoup Emmanuel Durand. Donc, je rappelle le livre « L'envers des fripes » aux éditions Premier Parallèle. On se retrouve dans un mois.
If you visit American City, you will find it very pretty. Just two things of which you must beware. Don't drink the water and don't breathe the air. Pollution, pollution, we got smog and sewage and mud. Turn on your tap and get hot and cold running crud. See the halibuts and the sturgeons being wiped out by detergents. Fish gotta swim and birds gotta fly.
but they don't last long if they try. Pollution, pollution, you can use the latest toothpaste and then rinse your mouth with industrial waste. Just go out for a breath of air and you'll be ready for Medicare. The city streets are really quite a thrill. If the hoods don't get you, the monoxide will. Pollution, pollution, wear a gas mask and a veil. Then you can breathe long as you don't inhale. Lots of things there that you can drink, but stay away from the kitchen sink. Throw out your breakfast garbage, and I've got a hunch that the folks downstream will drink it for lunch. So go to the city, see the crazy people there, like lambs to the slaughter. They're drinking the water and breathing the air.
Fini le tour du village pour faire les commissions. Nous, on a inventé la grande distribution. La grande distribution est pleine de qualité, généreuse, accueillante et désintéressée. Quand tu vas faire tes courses, dépenser ton pognon, t'as l'impression de rentrer dans un parc d'attractions. Chez nous, bande d'abrutis, venez tous remplir votre caddie. On contribue souvent à embellir les villes avec des beaux panneaux sans esprit mercantile. On te donne un chariot, en plus c'est amusant. Tu peux mettre tes lardons et c'est moins fatigant. T'es souvent accueilli par un brave vigile qui a sorti gentiment son pitbull du chenil. Avec son air engageant, ses oreilles dégagées, enfin c'est rassurant, ce savoir protégé. Courez chez nous, tu te mettrais à chanter des cantiques à la gloire de l'inventeur de la grande distribution. Tu chantes les louanges du dieu consommation comme dans une procession.